la savait méfiante à l'endroit de Nicole, par qui elle avait dû être gratifiée de coups de pied féroces appliqués aux endroits les plus sensibles. Les oncles étaient en revanche conquis et installés au rang de fournisseurs agréés en savante douceur. Ils coupaient pour elle de petites bouchées de pain dans la croûte qu'ils ne mangeaient pas. Quoique nantis de dons admirables et peu enclins au gaspillage en quelque matière que ce fût, ils ne mangeaient que la mie. Ils beurraient l'intérieur de la croûte ou étalaient un peu de sauce ou de pâté ou de confiture avec la pointe du couteau. Ils n'en laissaient jamais tomber sur la table ou par terre. Ils étaient habiles. Lola, l'air de rien, posée, attendait. Elle regardait d'ailleurs. Quand ils faisaient claquer la lame de leur couteau, elle venait, s'asseyait sur son derrière. Et ils donnaient les tartines ou les bouchées, une par une, tantôt l'un, tantôt l'autre. Elle prenait son temps, jamais la vide. On aurait cru qu'elle mâchait, savourant, en amatrice éclairée. Les oncles se penchaient, tour à tour, tutoyant la chienne. Elle était une gourmande, et rien qu'une bourgeoise, et elle avait la gueule fine, et ce régime-là ne durerait pas éternellement de se faire servir et de les prendre pour des enfants de cœur. C'était la cérémonie du dimanche, quand on mangeait ensemble, en bas ou en haut. Nicole, renfrognée, ronchonnait. Rouspétait qu'elle ne voulait pas voir ça. Quand des gamins mouraient de faim à la télé, une chaîne nourrit la coupe de tartines, et par deux vieux encore, qui retombaient en enfance, on n'avait pas idée, c'était impossible. Dans le bois de la montagne, Eric et Lola avaient trouvé un coin pour eux, par hasard, pendant le deuxième printemps. Au début, Eric n'allait pas dans les bois. Ensuite, il avait appris, de la fenêtre du milieu de la grande pièce qui était son poste de vigie, à deviner les chemins dans le serré des ramures ou entre deux parcelles. Il annonçait, on part, on savait que c'était avec Lola, on va au bois de Combes, sur le plateau de Bagile, ou à la rivière. Il s'agissait d'indiquer une direction pour qu'Annette ne s'inquiète pas. Il partait en milieu de matinée et reviendrait à l'heure du repas. La chienne ne manquerait à personne pour le travail. Eric avait compris que le travail commandait tout la fridière. Lola avait sa place dans l'édifice et la tenait à la perfection, d'où les égards multiples qui lui étaient prodigués. Lola ne faillirait pas, on n'aurait rien à lui reprocher du fait d'Eric, et chacun d'entériner, bon gré mal gré, l'alliance indéfectible qui s'était nouée sous les yeux de tous dès que l'enfant étranger l'avait fait irruption. Dans leur coin du bois, Eric et Lola restaient cachés. La chienne, parfois, s'endormait, tout son corps vif et menu enfoncé dans la confiance tiède du sommeil. Eric, alors, grimpait dans le hêtre charnu qui marquait l'entrée de leur clairière suspendue à mi-côte. Il aimait reconnaître les sentiers, la maison de Fridière, les fenêtres ouvertes ou fermées, les hangars de Paul, les maisons du hameau, les grenées sur la pente, le chien attaché des Duval, les prés des uns et des autres, le tracteur de Paul, celui du Jaladi, les moutons, les vaches, les oncles dans le jardin, ou sa mère, ou Nicole dans la cour, qui s'affairait devant les cages des lapins, ou eu encore le pas lent et régulier de Paul et la Diane garée à sa place. Il savait tout. Quand Lola se réveillait, elle le cherchait un instant, comprenait aussitôt et grattait contre le tronc, dressée de toute sa hauteur sur ses pattes arrière, à la fois impérieuse et suppliante. Elle aboyait presque, on eût dit qu'elle pleurait. Eric descendait, elle s'écartait, oreilles dardées, l'échine tendue, ne voulait plus lui parler pendant 3 minutes, offensée, outrée. Ensuite elle oubliait, il la serrait, elle pardonnait. Nicole était la gardienne de Fridière, la grande prêtresse de cette religion du pays, ramassée sur lui-même, clos et voué à le rester autant par les fatalités de sa géographie et de son climat que par les rugueuses inclinations de ses habitants. On finirait au mieux par être toléré à Fridière, on n'y serait pas accueilli, en dépit de Paul et de tout son bon vouloir d'homme pacifique et résolu. Nicole éructait sa loi plus qu'elle ne l'énonçait, la bougonnant vaguement dans le dos des intéressés. Son magistère n'était pas frontal, mais elle ne lâchait pas, ne cédait rien. Elle répétait en secouant sa frange de cheveux à cajou que Fridière était le point culminant habité de la commune. Une sorte de toit du monde ou d'Himalaya, avait commenté Eric, un dimanche soir, après une fin de repas, où Nicole, émoustillée par 2 ou 3 verres de vin, s'était répandue dans de torrentielles envolées sur le caractère unique, merveilleux et conservatoire de Fridière que sa position l'isolée protégeait. Et ce pour toujours, pensait-elle, espérait-elle, des lords d'étrangers plus ou moins colorés ou basanés, écrasés de misère chez eux et avides de déferler sur les côtes, les villes, les plaines françaises. En pays bas et ouverts, à la seule fin de profiter sur le dos de gens qui travaillaient, eux, depuis des générations, et ne pondaient pas, eux, des enfants à la dizaine, pour vivre des allocations et engraisser les assistantes sociales. Elle se déversait, comme accablée, immobile, les coudes plantés sur la toile cirée, le menton calé dans les mains qu'elle avait massives, Les mains de Paul avaient pansé Annette, qui, à aucun prix, n'eût tenté d'endiguer le flot. Paul n'y songeait pas davantage, résigné et quasiment goguenard, tandis que les oncles, repus et indifférents, somnolaient de concert, campés en auguste vieillard dans leur abyssal détachement des choses du siècle dont s'affligeait en vain leur nièce coriace. Les paroles dures, comme vomies, s'étalaient, gagnaient, prenaient possession de la grande salle du bas qui était l'épicentre du séisme de Nicole, le nombril de son.